Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à toutes et à tous pour ce culte de la fête de l'éducation biblique. Bienvenue aux enfants, à leurs familles, et aussi à tous les paroissiens présents dans ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux sociaux et d'Internet. Bienvenue au cœur de l'oratoire du Louvre sous la direction d'Alexandre Korovitch et bienvenue à Sarah Kim qui accompagne ce culte à l'orgue. Bienvenue tout particulièrement au père James Cunningham, présent pour le baptême d'une petite fille que nous découvrirons tout à l'heure. À toi.
Merci Agnès. Merci beaucoup. Ce matin, nous allons vivre un moment un peu particulier dans la liturgie de ce culte. Vous avez reçu une feuille de déroulement de culte. Vous avez pu voir peut-être le beau dessin qui est à l'arrière de la feuille. N'hésitez pas à regarder pour méditer ce dessin très parlant. Nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir faire ensemble la connaissance avec des textes que les catéchumènes et les enfants de l'éducation biblique à tous les niveaux ont écrits au fil de cette année d'éducation biblique sur le thème « Ma Bible à moi ». Alors ça peut sembler étonnant de réécrire des textes bibliques, mais nous en parlerons ce matin et vous verrez que les enfants ont donc composé des textes en rapport avec les textes qu'ils ont découverts dans la Bible, qu'ils ont étudiés, et à partir de ces formes bibliques, ils ont pu créer eux-mêmes ce qu'ils diraient aujourd'hui s'ils avaient à écrire un évangile, un récit apocalyptique, une vision peut-être, parce qu'on a des prophètes parmi nous aussi. Et donc nous avons la joie et l'honneur de découvrir ensemble et de vivre ensemble cette liturgie avec les mots des enfants, ce qui est un privilège parce que ils nous apprennent beaucoup. Et nous sommes très reconnaissants à toutes les monitrices et moniteurs qui nous ont aidés cette année à faire en sorte que tout cela soit possible avec les enfants, que tous ces ateliers d'écriture aient lieu et que les enfants puissent en retirer toute la formation nécessaire à leur esprit critique sur la Bible. Je voudrais saluer particulièrement toutes les monitrices qui sont ici ce matin et je vous invite à vous lever, mesdames. Voilà, et je vous invite à les applaudir en commençant ce culte. Voilà, et on pense à Chloé qui est avec les tout-petits à la salle Robertier qui nous rejoindra tout à l'heure avec les tout-petits. Et un moniteur, Jean-Daniel, qui est excusé aujourd'hui, donc nous les associons à ces remerciements particuliers pour ce culte qui est possible aujourd'hui. Je vous invite à entrer dans ce temps de culte par la prière.
Père, tu es là au milieu de nous. C'est toi qui nous offres ce temps de culte pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des sœurs et avec des frères notre adoration et notre prière. Nous te louons. Amen et merci. Louons le Seigneur avec un texte qui s'intitule « Louange d'une brebis perdue et retrouvée ». J'étais perdue et vous m'avez guidée. J'étais petit et vous m'avez éduqué. Je ne savais pas et vous m'avez appris. J'avais froid et vous m'avez donné une couverture. J'avais faim et vous m'avez nourri. C'était mon anniversaire et vous m'avez gâté. J'étais seule et vous êtes venu vers moi. Je ne comprenais pas et vous m'avez expliqué. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'avais faim, vous m'avez donné des bonbons. J'ai travaillé et vous m'avez récompensé. J'étais fatiguée et vous m'avez donné un lit. J'étais mort et vous m'avez ressuscité. Amis, frères et sœurs, je vous invite maintenant à poursuivre notre louange en prenant le chant du psaume 92. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Vous trouvez ce psaume sur les feuilles qui vous ont été remises à l'entrée. Et je vous invite à vous lever.
Je vous invite à vous asseoir. Écoutons la volonté du Seigneur telle qu'elle est comprise par nos enfants avec ce sermon du quatrième étage. Comprenez mon bureau à côté. L'amitié ne s'achète pas, elle se partage. Ne dis pas de belles choses en sachant que tu en feras de mauvaises. Prie, mais ne fais pas le péché derrière ta prière. Regarde les gens d'un bon œil. Si tu réalises la chance que tu as, tu découvriras le bonheur. Tu pourras juger quand tu seras parfait. En mentant, tu risques de perdre la confiance d'autrui. Ne jugez pas tant que vous ne connaissez pas le vécu de chacun. Pensez, mais ne dites pas les choses qui blessent. Sois généreux, et ta récompense sera de rendre les autres heureux. Devant le Seigneur, nous pouvons confesser ce qui nous sépare de sa volonté à partir de ce slame écrit par deux de nos catéchumènes.
C'est moi, Dieu, qui mène le tempo.
Tous les hommes, vous avez fait la guerre.
Ce qui ne me plaisait guère.
Vous avez pollué comme des barbares.
La pauvre terre, tôt ou tard.
Vous avez tout irradié.
Et maintenant vous en riez.
Vous avez pratiqué l'esclavage.
Ce qui a fait des ravages.
Les océans sont pleins de plastique.
Juste pour faire des élastiques.
Pour la peine, j'enverrai mon fils.
Ce très cher Jésus-Christ.
Alors, on a des progrès à faire en slam, mais alors pour l'écriture, je trouve que c'est pas mal. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce malgré tout, malgré toutes les erreurs que nous faisons dans nos vies et dans nos sociétés, et malgré tout ce plastique dans nos océans. Dans le prophète Joël, et cette fois-ci ce sont des paroles de la Bible, il est écrit un espoir extraordinaire pour nous tous. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Chantons ensemble cette justice tant attendue par nos plus jeunes et par nous aussi dans notre monde avec le psaume 72, Revêt Seigneur de ta justice, les strophes 1 et 3.
Nous confessons notre foi à partir d'un texte écrit par les jeunes à la suite d'un atelier d'écriture sur les miracles. Cette confession de foi s'intitule « Bartimée après Bartimée ». Bartimée, l'aveugle qui avait recouvré la vue grâce à Jésus, marchait dans une plaine. Les larmes coulaient sur son visage et ses yeux étaient voilés par une tristesse infini. Tout à coup, il se cogna contre un homme. Après avoir repris ses esprits, il s'excusa et reprit son chemin. Mais l'homme qui l'avait heurté le rattrapa et lui demanda : Que se passe-t-il ? Pourquoi es-tu si triste ? Bartimée répondit : On a toutes les raisons d'être triste quand celui en qui on avait tout remis, tout confié est mort. Il faisait des miracles, mais il n'a pas pu éviter la mort. Et depuis qu'il est mort, je ne vois plus rien que ma déception. Je suis de nouveau aveugle. Comment le Fils de Dieu peut-il mourir ? Mais l'homme s'écria : Comment peux-tu avoir perdu confiance en ton Dieu ? Ouvre donc les yeux ! À ces mots, Bartimée ouvrit les yeux et il vit Jésus devant lui. Et un instant plus tard, il ne vit plus que la rivière éclairée par la lune. Bartimée déclara alors : Je crois que l'espoir est là, car maintenant je l'ai vu.
Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir et nous allons entrer dans la liturgie du baptême. Oh, mais alors des pleurs alors qu'elle va être baptisée, ça c'est pas bien. Camille et Mathieu, vous avez demandé le baptême pour votre fille. Avec les parrains et marraines, je vous invite à nous rejoindre avec le père James Cunningham. Nous sommes ici pour célébrer ce merveilleux événement dans votre famille. Ça va beaucoup mieux tout de suite. Oui, voilà. Alors, venez près de moi ici, voilà, et par ici aussi, messieurs. Voilà, très bien. Alors, peut-être vous pouvez vous tourner, parce qu'en fait, vous voyez, on a des gens qui nous regardent en Nouvelle-Calédonie. Alors, il ne faut pas leur tourner le dos, parce qu'ils sont très heureux de nous avoir avec eux aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église chrétienne, ici rassemblée dans le temple protestant de l'Oratoire du Louvre, mais aussi représentée par notre ami James Cunningham, l'Église catholique. L'Église dans son ensemble accueille avec beaucoup de joie, une joie qui devrait être partagée, mademoiselle. Bon, qu'est-ce qui t'arrive alors ? Accueille avec beaucoup de joie ce souhait. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais laisser la parole à James qui avait quelques mots à vous dire.
Voilà, d'abord, je voudrais remercier Béatrice d'avoir pensé à moi pour représenter un peu la dimension catholique de ce baptême de Paola, issue de deux familles, protestante et catholique. Et aussi à Camille et à Mathieu d'avoir accepté, bien sûr. Et Paola, tout à l'heure. La dernière fois que j'étais ici, c'était en 2011, comme supérieur général de l'oratoire, pour les 200 ans de l'installation de cette communauté ici à l'oratoire du Louvre, qui était aussi le 400e anniversaire de l'oratoire de Bérulle, l'oratoire de France. J'ai un très beau souvenir de la fin des années 90, comme séminariste d'un concert ici organisé dans le cadre, je crois, d'une semaine de l'école du Louvre, de chants à la fois du plein chant des pères de l'oratoire et du chant de la réforme, qui montrait bien que la musique, peut-être mieux encore que les discours, ça, c'est réunir des peuples, réunir des frères et des sœurs, et aujourd'hui ce baptême qui nous réunit également. Comme le papiste de service ce matin, je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques mots du pape François sur le sens du baptême. Je pense, j'espère que vous vous y retrouverez également. Que signifie être chrétien ? Cela signifie regarder la lumière, continuer à faire sa profession de foi dans la lumière, également lorsque le monde est enveloppé par la nuit et par les ténèbres. Les chrétiens ne sont pas exemptés des ténèbres extérieures et aussi intérieures. Ils ne vivent cependant pas en dehors du monde. Par la grâce du Christ reçu dans le baptême, ce sont des hommes et des femmes orientés. Ils ne croient pas dans l'obscurité, mais dans la clarté du jour. Ils ne succombent pas à la nuit, mais ils espèrent l'aurore. Ils ne sont pas vaincus par la mort, mais ils aspirent à renaître. Ils ne sont pas écrasés par le mal, parce qu'ils ont toujours confiance dans les possibilités infinies du bien. Telle est notre espérance chrétienne, la lumière de Jésus, le salut que Jésus nous apporte avec sa lumière, qui nous sauve des ténèbres. Nous sommes ceux qui croient que Dieu est le Père, voilà la lumière. Nous ne sommes pas orphelins, nous avons un Père et notre Père est Dieu. Nous croyons que Jésus est descendu parmi nous, qu'il a marché dans notre vie même, en devenant en particulier le compagnon des plus pauvres et des plus vulnérables. Voilà la lumière. Nous croyons que l'Esprit Saint œuvre sans relâche pour le bien de l'humanité et du monde, et que même les douleurs les plus grandes de l'histoire seront dépassées. C'est l'espérance qui nous réveille chaque matin. Nous croyons que chaque lien d'affection, chaque amitié, chaque bon désir, chaque amour, même les plus petits et les plus négligés, trouveront un jour leur accomplissement en Dieu. Telle est la force qui nous pousse à embrasser avec enthousiasme notre vie de tous les jours. Et cela est notre espérance, vivre dans l'espérance et vivre dans la lumière de Dieu le Père, dans la lumière de Jésus-Christ, dans la lumière de l'Esprit Saint qui nous pousse à aller de l'avant dans la vie. Quelle grâce quand un chrétien devient vraiment un Christophore, c'est-à-dire un porteur de Jésus dans le monde, en particulier pour ceux qui traversent des situations de deuil, de désespoir, de ténèbres et de haine. Et on comprend cela à tant de petits détails, à la lumière qu'un chrétien conserve dans le regard, à l'air de sérénité qui n'est pas même entamé, dans les moments les plus compliqués, à l'envie de recommencer à aimer, même quand on fait l'expérience de nombreuses déceptions. À l'avenir, quand on écrira l'histoire de notre époque, que dira-t-on de nous, que nous avons été capables d'espérance, ou bien que nous avons mis notre lumière sous le boisseau? Si nous sommes fidèles à notre baptême, nous diffuserons la lumière de l'espérance. Le baptême est le début de l'espérance, que cette espérance de Dieu, et nous pourrons transmettre des raisons de vie aux générations futures. Merci à Camille et à Mathieu de nous amener aujourd'hui ce futur Christophore. Merci à la communauté de l'oratoire de l'accueillir et qu'elle rayonne dans les années à venir sur vous tous, sur nous tous. Merci.
Merci, James. Mathieu, peut-être tu peux venir près des enfants ici avec Camille. Voilà. Alors, si vous vous cachez tous derrière le baptistère, là, vraiment, Nouvelle-Calédonie, ils vont être malheureux. Alors, Camille et Mathieu, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui donne le souffle de vie. Elle va être baptisée au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour elle, et qui l'appelle à son service. Elle va être baptisée au nom du Saint-Esprit qui fera naître en elle, et c'est notre souhait, la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici dans ce baptistère, et c'est de l'eau tout à fait ordinaire, mais avec la parole de Dieu, elle devient l'eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, frères et sœurs, notre propre baptême nous est rappelé, car nous savons qu'ensemble, nous vivons de l'amour de Dieu. Nous allons maintenant procéder à un moment de confession de foi avec James, qui va donc demander aux parents quelque chose sur leur foi.
Mathieu et Camille, demander le baptême, c'est aussi vouloir que Paola soit élevée dans l'amour de Dieu, Dieu que nous croyons Père, Fils et Saint-Esprit. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre?
Oui.
Oui. Oui.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né d'un homme et d'une femme et a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père?
Oui.
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 Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des croyants, au pardon des péchés, à la résurrection et à la vie éternelle?
Oui.
Oui. Oui.
Alors nous allons procéder à ce baptême ensemble. Mathieu et Camille, quel prénom, alors mettez-vous par ici, quel prénom avez-vous choisi pour votre petite fille ?
Paula, Constance, Marie, Colomba.
Paula, nous te baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Oh, alors là, c'est une première. Je suis très déçue, en fait, parce qu'on a... Bon, alors, petite Paula. Paula, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà, plus tard on te racontera qu'en fait ce sont des bonnes choses. Je suis un peu désolée parce que c'est rare quand les enfants pleurent, mais là je crois qu'elle n'en peut plus depuis ce matin très tôt et que c'est un moment de fatigue. Hein Paula, c'est ça ? Paula ? Oui ? Je crois que c'est ça. Hein. Non, t'inquiète pas, je te laisse, c'est fini, ça y est, c'est fait. Alors, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour être tous ensemble pour ce baptême et pour accompagner Paula dans ce petit moment où elle a sans doute eu froid tout d'un coup à la tête, ce qui est assez étrange. Voici Paula, et par ce baptême, nous attestons qu'elle est enfant de Dieu. Elle est ici chez elle. Elle est ici chez elle et vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez votre prière ainsi qu'à sa famille, à ses amis, à tous ses proches avec lesquels elle est en lien. Et vous serez des témoins de l'amour de Dieu. Si jamais elle venait à se séparer de cette communauté ou de la communauté catholique dans laquelle peut-être elle ira prier, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Ce sera ainsi pour elle le témoignage de l'amour inconditionnel de Dieu dans sa vie. Voilà, Paula, ça y est, regarde, tu as vu tout le monde qui est là pour toi, très content de te voir. Ouais. Elle me regarde d'un air un peu inquiet en se disant « qu'est-ce qu'elle va encore inventer ?» Alors je vous invite à chanter tous ensemble pour célébrer ce baptême et en guise d'envoi. Ah, alors. Je vous invite à chanter donc « Confie à Dieu ta route », le 308, les strophes 1, 3 et 5, sur les feuilles. Voilà, pendant que la marraine de Paula va dire les quelques mots qu'elle avait... je vais inviter tous les enfants de l'éducation biblique à se mettre là sur le côté, juste avant la lecture biblique, s'il vous plaît, les enfants. Merci beaucoup.
Paula, aujourd'hui, c'est le jour de ton baptême. Nous nous engageons à être ton parrain et ta marraine. C'est une belle responsabilité que tes parents nous ont confiée. Tu es née dans une famille mixte. C'est une chance, car tu seras toujours amenée à t'interroger sur les fondements de la foi, sur ce en quoi tu crois réellement ou ne crois pas, sur ce qui a du sens pour toi et sur ce qui en a moins. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui sait, mais quelqu'un qui cherche.
Notre rôle en tant que parrain et marraine est de t'aider sur ce chemin. Non pas de te pousser à croire, mais de t'inviter à chercher Dieu dans ton cœur, dans la Bible, dans le monde. Comment ? Il n'y a pas de recette. Mais nous pensons à l'amour donné, au témoignage ou à la prière. C'est dans la prière que tu trouveras les ressources pour pardonner, aimer, espérer.
Tu pourras toujours compter sur nous pour t'y aider.
Sous le regard bienveillant du Seigneur.
C'est bon ? Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à vous asseoir. Merci à vous. Alors les enfants, vous avez reçu, normal, vous connaissez les livres de la Bible ? Les titres des livres de la Bible, ça vous dit quelque chose ? Allez, on y va. Et puis, allez-y, hein, assez rapidement. Oh oui, avancez-vous. Voilà, soyez prêts.
La Genèse.
Exode. Le Lévitique.
Les Nombres.
Le Deutéronome.
Josué. Samuel.
Venez par là, venez, avancez. Voilà.
Les Rois.
Les Juges. Les Chroniques.
Il n'y a plus de Bible, il n'y a plus de livres après ? Ah si.
Esdras. Ésaïe.
Ah, il y a un petit truc, non, c'est plus bon.
Élémie.
Néhémie.
Néhémie,
oui, c'est ça.
Esther,
oui.
Les Proverbes, Job,
oui, venez par ici, voilà.
Les Prophètes, Osée, Ézéchiel.
Oh, Ézéchiel, c'est mignon Ézéchiel comme prénom. En plus, on a un vrai Ézéchiel ici, et qu'on n'appelle jamais Ézéchiel. Oh là, c'est compliqué, elle est tombée sur Ecclésiaste. Et alors, tu aurais en plus pu avoir Coélète. Attends, c'est pire que tout. Alors, c'est un très très beau livre, un très beau livre de sagesse, Ecclésiaste. D'accord ?
Les psaumes.
Les psaumes.
Le cantique des cantiques.
Daniel.
Abigaël.
Abigaël. Vous connaissez le livre d'Abigaël, vous ? Non, hein ? Non, nous non plus. Et alors, qu'est-ce que tu as, toi ?
Livre des chimères.
Le livre des chimères. Je crois que ça déraille un peu. Alors, comment ça se fait, ça ? C'est la Bible de qui ? Cette Bible-là où on trouve Abigaël et le livre des chimères ? Ah, c'est votre Bible à vous. Alors, on peut le redire.
C'est notre Bible à nous.
Bon, alors, on va voir ça de plus près. Je vous invite à vous asseoir, les enfants. Merci beaucoup pour cette petite révision. Alors, évidemment, il y a plein d'autres livres bibliques ensuite.
Alors voyons voir un peu ce livre des chimères. Chapitre 1, versets 1 à 14. Tout à coup, je vis dans le ciel un être majestueux. Je croyais que c'était un simple oiseau, mais il avait quelque chose d'étrange, d'exceptionnel. J'ai cru que je rêvais. Je vis quelque chose qui ressemblait à un lion, sauf qu'il possédait un bec qui ressemblait à celui de la colombe. Je me suis dit, un lion-colombe, est-ce que ça existe ? N'étais-je pas devenu fou ? Je n'étais pas au bout de mes surprises. Je me rapprochais de cet être mystérieux. Je découvris qu'il avait aussi une queue de renard, des oreilles de chien, des pattes de chat et des ailes d'aigle. C'était sûr, il venait d'une autre dimension. J'entendis une voix me dire « La tête de colombe représente la paix, les oreilles de chien la fidélité, le corps de lion la force, la protection et la bonté, les ailes de l'aigle la puissance et la majesté de la royauté, la queue du renard l'intelligence astucieuse, les pattes de chat représentent l'amour et la discrétion. » Alors je compris quel était cet animal extraordinaire. C'était la représentation du Seigneur qui seul pouvait posséder toutes ses qualités. Et la voix me dit, accomplis ce que tu dois faire. Et ce livre de la prophétesse Abigail, qui veut dire source de joie. Chapitre 1, versets 1 à 13. Et je vis dans le ciel quatre symboles. Il y avait un lotus, une croix, une étoile et un croissant de lune éclairé par une étoile. Deux personnes se battaient. L'un portait une capuche et l'autre avait le visage découvert et il était vêtu de blanc. Les symboles se battaient entre eux. Ils se battaient chacun au nom de leur Dieu. On voyait des milliers de morts aux côtés des symboles. La nuée de Dieu apparut. On vit alors pousser un olivier et une nuée de colombes arriva. Il se mit à neiger. Tout était devenu blanc. Tous les morts revinrent à la vie. Une main les relevait tous pour la paix, pour ce monde. Ils firent la fête sous l'olivier plein de fruits et les colombes vinrent faire leur nid dedans.
Thank you.
Merci pour cette Agnus Dei extraordinaire qui nous fait penser à toutes ces visions d'agneaux mystiques que l'on peut trouver dans la Bible. À la lecture de ces textes, on retrouve à la fois les formes des écrits contenus dans la Bible, avec ces grandes descriptions d'êtres extraordinaires que seuls les prophètes comme Ézéchiel savent voir. Et pourtant, le contenu des visions et des scènes apocalyptiques ont quelque chose d'extra-biblique, d'anachronique en quelque sorte. Le chat, par exemple, il n'y en a pas beaucoup dans la Bible, les enfants des chats. Et non, c'est un animal dont on ne parle pas vraiment dans la Bible, sauf une fois, je crois, dans un des livres des Chroniques. Mais je vous laisse chercher et retrouver le chat caché dans la grande bibliothèque qu'est la Bible. Le chien est intéressant aussi, car il apparaît ici comme l'ami de l'homme, alors que ce n'était pas si simple que ça dans le Moyen-Orient biblique. Pourtant, on retrouve les grands symboles qui peuplent notre imaginaire et qui sont passés du monde religieux au monde profane. La colombe, l'olivier, le grand aigle, le lion, l'arbre qui donne du fruit. Tous ces symboles parlent universellement encore aujourd'hui. Que l'on soit croyant en Dieu ou qu'on ne le soit pas, tous ces symboles ont traversé nos cultures. Mais c'est peut-être parce que tous ces animaux ont d'abord fasciné les hommes qu'ils ont été utilisés pour parler des choses divines. C'est peut-être dans ce sens-là que les choses se sont passées. C'est parce qu'ils contenaient une part de mystère propre à subjuguer l'observateur que les auteurs bibliques ont sans doute voulu les prendre comme symboles. C'est peut-être aussi parce que l'arbre, et particulièrement l'olivier, est un véritable socle de l'organisation des sociétés méditerranéennes, d'une civilisation, comme l'explique Fernand Braudel, qu'il a été ainsi choisi dans la Bible que nous connaissons, mais aussi dans les textes parlant de la paix, comme celui que nous avons lu ce matin dans le livre de la prophétesse Abigail. La culture biblique est autant héritière que créatrice. Les deux textes que les catéchumènes ont imaginés ici lors d'un atelier d'écriture sur le langage des visions prophétiques bibliques ont ce site d'extraordinaire qu'ils s'inspirent très directement de la Bible et de ses motifs pour en transposer le message dans un autre temps. Ce temps, c'est celui des auteurs eux-mêmes, celui d'aujourd'hui. On notera au passage qu'ils ont choisi une autrice dont le nom veut dire « source de joie » pour ce livre qu'ils ont imaginé. Un beau signe des temps, je pense. La façon de définir Dieu dans une vision fait appel à des animaux familiers, aimés et qui apportent le réconfort, la confiance et la force que Dieu inspire à ses enfants. Le thème de la paix traité dans cette guerre des symboles comme une difficulté à trouver un équilibre au milieu de doctrines religieuses qui s'affrontent manifeste bien, lui aussi, le questionnement que traversent les enfants de notre temps et les adolescents d'aujourd'hui à propos de toutes ces querelles religieuses qui les entourent. Au milieu de ces perles de réécriture, il a fallu choisir, car toute l'année, il y en a eu beaucoup. Mais toute la liturgie de ce matin nous montre des exemples de créations littéraires aux accents bibliques qui sont autant d'actualisations et de commentaires de textes qui peuplent déjà la culture et l'imaginaire des enfants, lesquels fréquentent régulièrement ce lieu. Du slam éthique à la louange pour le salut, en passant par la parabole de l'orgue que nous entendrons après, jusqu'à la vie après un miracle avec Bartimée, l'aveugle guéri qui retombe dans la cécité du chagrin et du non-sens, les récits adoptant des formes plus ou moins reconnaissables dans la Bible, comme le récit de miracle, la parabole, la béatitude ou le sermon, permettent de porter des préoccupations, des espoirs, des gratitudes d'aujourd'hui. C'est une langue que nos lectrices et nos lecteurs de la Bible, devenus écrivains, ont apprise toute cette année. Et pour les plus petits, me demanderez-vous, Pour les plus jeunes, le théâtre ou le dessin leur permettent déjà d'exprimer dans la langue de la Bible ce qu'ils en comprennent et ce qu'ils en retiennent. Comme cette chimère extraordinaire que vous avez sur votre feuille de chant et qui nous a toutes et tous sidérés quand nous l'avons vue. Quelle présence d'esprit ! Un pangolin serpent. Résumé d'une situation sociale contemporaine, expression du mal et de son remède dans la même bête étrange, création symbolique pour exprimer ce qui nous est arrivé avec la pandémie de Covid et la quête de vaccins pour en venir à bout. L'origine et la fin, le mal et le salut, rassemblés dans un même dessin d'enfant, à faire pâlir d'envie un psychanalyste. Quel rapport avec la Bible pourrait-on objecter à cette pédagogie de la réécriture ? Et quelle utilité dans le fait d'écrire de nouveaux textes alors que ceux qui sont dans la Bible sont déjà si riches et encore si souvent méconnus ? N'est-on pas en train de s'éloigner du trésor commun plutôt que de se familiariser avec lui ? Prétendre qu'une bonne culture biblique s'acquiert par la lecture des textes n'est évidemment pas absurde. Mais ce qui en revanche devient absurde, c'est de garder ceci en mémoire comme des monuments inamovibles, qu'il est interdit de critiquer et de transformer, sinon au mieux en érudition, au pire en idole ou en dogme indiscutable. Lire des textes anciens requiert un apprentissage de la relation que cette culture suppose avec nous, de sa relativité et donc une désacralisation. Ce que nous appelons la Bible est un parti pris de choix, de traduction, d'abandon et d'interprétation. On a fait des coupes, on a mis des titres, on a édité sur des supports nouveaux, on a changé la façon de présenter la Bible, ce qui a changé aussi la façon de la lire. Les livres qui sont dans la Bible y sont en partie parce qu'en 367, un certain Athanase d'Alexandrie a décidé d'évacuer du canon de la Bible tout ce qui ne correspondait pas à la doctrine chrétienne telle qu'il l'envisageait. Exit la prière de l'apôtre Paul. Ce que l'on va se mettre à appeler les apocryphes de Jacques, de Jean, ou encore l'évangile de Philippe, le livre de Thomas l'athlète, la Sophia de Jésus-Christ, le dialogue du Sauveur. Exit l'évangile de Thomas, extraordinaire recueil des paroles du Christ, aussi ancien et peut-être plus que les quatre évangiles canoniques pourtant. Tous ces textes n'ont pas été retenus dans la grande bibliothèque canonique de la Bible parce qu'ils venaient contredire la doctrine chrétienne en vigueur à l'époque d'Athanase. Pourtant, ces textes n'étaient pas des faux évangiles ou des faux témoignages de foi en Jésus-Christ, mais ils allaient à contre-courant de ce que l'on voulait garder du foisonnement chrétien des premiers siècles. Trop mystique, ne rendant pas service à la hiérarchie de l'Église et à la succession apostolique reconnue, l'évangile de Thomas met en avant en effet l'autorité de Jacques, nommé par Jésus comme son successeur, ce qui n'était pas très pratique quand on voulait faire de Pierre le gardien de la tradition. Alors si le choix d'un trésor commun relève d'un coup de force pour mettre de l'ordre là où la foi a créé un exubérant foisonnement littéraire, que devient l'autorité de la Bible telle qu'elle nous est présentée? Et que devons-nous enseigner à nos enfants? Sola scriptura, l'écriture seule, mais quelles écritures? Dans son examen important de Milord Bolingbroke, ou le tombeau du fanatisme, Voltaire écrit « Pourquoi le chrétien le plus scrupuleux rit-il aujourd'hui sans remords de tous ses évangiles, de tous ses actes qui ne sont plus dans le canon ?» Et n'osent-ils rire de ceux qui sont adoptés par l'Église? Ce sont à peu près les mêmes contes, mais le fanatique adore sous un nom ce qui paraît le comble du ridicule sous un autre. Le canon biblique s'est constitué sur un temps très long Et encore aujourd'hui, on discute de l'entrée ou non de certains textes destinés à constituer le trésor commun qui fonderait la culture de nos églises. Ce que ce canon des Écritures nous apprend, c'est en fait qu'il déborde de partout. Et que la Bible, plus qu'une bibliothèque aux portes fermées, est une auberge toutes fenêtres ouvertes, où se croisent des cultures qui créent sans cesse de nouvelles façons de dire Dieu et de nouvelles façons de faire jouer entre eux les religions, les représentations, les symboles et les confessions de foi. D'où l'importance, pour comprendre cet entrecroisement de compréhension du religieux, de savoir reconnaître les formes de langage qui sont employées pour exprimer la foi et les problèmes qu'elles posent. Entre une parabole qui déplace l'auditeur dans son éthique et dans sa foi, et un psaume qui règle ses comptes avec Dieu par la plainte, la louange ou l'espérance, il y a un monde. Et ce sont autant d'usages de langue pour dire la relation de l'homme à Dieu et à son prochain. Quand l'Apocalypse de Jean écrit un texte politique crypté pour résister à la persécution romaine, alors que Luc entreprend de faire l'histoire de la bonne nouvelle que constitue la venue du Messie, le but est différent et il importe de le comprendre. Quoi de plus pertinent que de faire soi-même l'expérience de son expression de foi en devenant soi-même auteur d'apocryphes et en entrant dans cette démarche d'écriture de sa propre foi? Lequel d'entre nous ici a fait l'expérience de rédiger sa propre confession de foi? Peut-être pas si nombreux au bout du compte. N'est-ce pas fascinant de voir surgir les nombreuses questions et les exigeants problèmes qu'une telle démarche engendre? Réécrire n'est pas trahir, mais c'est découvrir. Ce procédé de la réécriture est d'ailleurs très courant dans l'Antiquité biblique comme dans d'autres cultures pour s'approprier un texte. C'est l'exercice du pas de côté, la fidélité par l'interprétation, l'immersion par la prise de distance. Car qu'y a-t-il de commun entre un homme de l'Antiquité et un homme du XXIe siècle qui lit le texte antique? Et pourtant, tant de choses nous relient par ces textes qui nous parlent et nous appellent à dire nous aussi notre version des faits pour aujourd'hui. L'anthropologie et les sciences bibliques ont montré ce qu'explique très bien ici le bibliste Scott Fitzgerald Johnson à l'Université de l'Oklahoma. L'acte de réécrire est nécessairement concomitant de n'importe quelle réception d'un texte, qu'il s'agisse des mythes bagrés des Lodaga, ce sont des mythes africains, des récits de la Bible hébraïque ou des innombrables mythologies. De la Grèce ancienne, la réponse cognitive humaine s'oriente invariablement vers l'élaboration et la réécriture, parfois même à un niveau très littéral. Le texte reçu devient tout naturellement un chantier ou un terrain de réécriture et de jeu. Un jeu qui, bien entendu, vise davantage à redéfinir l'identité contemporaine qu'à reformuler une mythologie ancienne. Ne dit-on pas que les protestants sont les archéologues de la foi? Eh bien, c'est à un chantier de fouilles qu'il faut comparer la Bible. Loin d'être la doxa du christianisme, cette bibliothèque ouverte nous invite à creuser avec constance dans ses sous-sols, mais aussi hors de ses murs, dans les alentours de ses textes, pour garder à l'esprit que la lire n'a de sens que si elle devient énigme féconde pour nous. Non pas un texte ésotérique, mais un monde dans lequel le tissu de relations passées se relie avec nos relations, celles que font notre esprit, notre intelligence, notre façon de vivre aujourd'hui en lisant ces lignes, d'abord lointaines, mais toujours humaines. Par leur lecture, nos enfants apprennent ce que d'autres ont dit avant eux sur leur relation à ce qu'ils appellent Dieu. Et cet apprentissage à recevoir un texte d'autres humains qui ont cru avant nous est essentiel. Mais par leur réécriture, nos enfants ont compris dans leur âme même quelle était l'importance d'un tel langage sur ces choses si difficiles à exprimer que sont Dieu, la foi, la paix, l'espérance ou l'amour. Leurs mots sont émouvants et j'espère qu'ils vous ont ému aujourd'hui dans ce culte. Émouvants comme le sont nos symboles et nos rites, comme l'était le baptême tout à l'heure de la petite Paula que nous venons de vivre. Parce qu'ils disent à la fois la force que leur donne cette langue biblique qu'ils se sont appropriés par transmission, mais aussi leurs aspirations pour ce monde, leur espérance pour l'avenir. Les textes de la Bible et ceux qui sont autour de la Bible, les apocryphes, les réprouvés, les oubliés, sont à la fois nourriture et miroir pour nos enfants comme pour nous. Ils nous inspirent, nous déroutent ou nous scandalisent, mais toujours ils nous construisent comme lecteurs ou auditeurs, en nous renvoyant cette question « Où est-elle ta Bible à toi ? Quel est le livre que ta vie écrit ?» Tout chrétien est un apocryphe de l'Évangile. Il réécrit dans sa contemporanéité le trésor qu'il a cherché dans le chantier de fouilles qu'est l'héritage biblique. Vous, vos enfants, vous qui êtes là avec nous aujourd'hui, vous les enfants particulièrement qui avez travaillé avec nous toute cette année, vous nous parlez de la paix que vous désirez entre les religions, entre tous les êtres humains de ce monde. Vous nous parlez de l'image d'un Dieu aimant, protecteur et astucieux. Vous nous rappelez qu'il n'y a pas de christianisme sans exemple du Christ dans nos propres vies, quand vous appelez à la solidarité dans notre société. Merci pour vos témoignages de foi qui nous engagent, nous autres adultes. Ce règne de Dieu que vous appelez de vos vœux est à construire ensemble. Parce qu'il faut qu'à votre suite, la petite Paula qui est ici, toute petite et qui vient de recevoir le baptême, elle aussi puisse réécrire son évangile dans la paix et la liberté de jugement que nous tous ensemble, nous lui aurons garantie par notre vie et notre façon de vivre selon l'exemple du Christ. Amen. Merci infiniment. Je vous invite à entendre, peut-être, Agnès, si tu veux bien nous lire la parabole. On va le faire maintenant pour faire une coupure après cette magnifique musique avant de chanter le cantique. Oh, voilà, une parabole justement qui porte sur un orgue. Alors évidemment, on aurait peut-être eu du mal à trouver ça dans les textes bibliques.
Il était une fois un homme qui n'avait pas de travail et un homme qui possédait une église. Cette église contenait un orgue resplendissant qui ne fonctionnait pas et un orgue miteux qui fonctionnait à merveille. L'homme riche ne savait pas en jouer et cherchait quelqu'un pour en jouer. L'homme sans travail savait en jouer, mais personne ne voulait de lui. Alors l'homme riche lui demanda s'il jouait de l'orgue et il l'embaucha. Tous deux allèrent dans l'église. Quand l'homme riche s'aperçut que l'orgue resplendissant ne fonctionnait pas, il suggéra d'en acheter un autre merveilleux pour attirer beaucoup de monde dans son église. L'homme pauvre suggéra plutôt d'essayer l'orgue miteux. Alors l'homme pauvre s'assit et se mit à jouer sur l'orgue miteux et joua divinement bien. Il attira toute la région par sa superbe musique. L'homme riche lui dit « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde vient pour un orgue miteux. » Le pauvre lui répondit « L'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas la beauté de l'orgue qui fait le bonheur des habitants, mais c'est l'amour que j'ai reçu de toi, homme riche, et l'amour que je porte aux habitants qui font que je vous offre la plus belle musique qui soit. »
Je vous invite à chanter ensemble le cantique que nous avons choisi et qui est connu des enfants de l'école biblique, de l'éducation biblique, « Marche en ma présence ». Peut-être on peut, oui.
Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je prends ton chemin. Marche en ma présence, je te tiens la main. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui vient. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Le Dieu de l'Alliance, n'oublie pas les siens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Dans ce qui te peine, dans le moindre bien. Thank you.
Prenez place.
Bonjour. Quelques annonces au nom du Conseil presbytéral. Cette semaine, nous avons la dernière de... Pourquoi vous êtes toutes parties, là, les deux ? Ne te cache pas. Pourquoi me laisser toute seule ? La dernière de Théophile, mardi soir, sur le thème du voyage. Également jeudi, pause spirituelle, qu'on va continuer tout l'été, pour le coup. Ça ne sera pas la dernière.
Y compris le 14 juillet. Oh, parce qu'on m'a posé la question, donc j'en profite.
Quel luxe.
Il y aura pause spirituelle, le... jeudi 14 juillet.
Donc, juste après le défilé, vous foncez au temple. Également.
Je pense qu'on devrait détourner le défilé par ici, en fait. Oui.
Bon, je suis sûre que le quartier va être bloqué de toute façon. Encore un immense merci au nom du Conseil presbytéral aux enfants, à leurs monitrices, aux moniteurs. Vous avez entendu tous ces textes, vous pouvez d'ores et déjà les retrouver sur notre site internet. Dans lequel il y a toute la liturgie détaillée, donc avec les textes des enfants, si vous voulez les relire, vous pourrez les relire sur internet. Également, vous avez écouté le chœur, dont c'est la dernière aussi avant l'été, il y a beaucoup de dernières, et sachez qu'ils font leur concert le 18 juin, samedi, donc c'est le Requiem de Mozart, vous l'avez reconnu, donc vraiment venez nombreux aussi assister au concert du chœur de l'oratoire. Tout ce petit monde se retrouve en pique-nique juste après. Alors si vous n'avez rien acheté, vous pouvez déjà proposer les gâteaux, emmener les gâteaux que vous achèterez aux éclaireuses à la sortie, parce que les éclaireuses vont, les scouts donc de l'oratoire vendent des gâteaux à la sortie. Si vous n'avez rien pris, vous passez à la boulangerie, venez avec nous tous, discutez avec les enfants, avec leurs moniteurs, avec des choristes, avec des scouts. Et les pasteurs qui seront là toutes les deux. Je crois même qu'Agnès va venir avec une chaise spéciale marquée pasteur et mari du pasteur juste à côté, donc vous les reconnaîtrez.
Parce même... qu'elle a son trône en fait, c'est pour ça.
Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à venir. Également, puisque c'est bientôt l'été, sachez que la trésorière nous l'a rappelé en dernière assemblée, faire fonctionner cette église c'est 1046 euros par jour, donc c'est quand
on
même...
On ne veut culpabiliser personne, hein, vous êtes...
Donc, je vous en prie, les mois de juillet et août, tout le monde part en vacances, ça peut nous créer des problèmes de trésorerie, donc pensez à nous faire des virements automatiques, si possible, ou juste un don avant de partir en vacances, parce que les mois de juillet et août sont toujours un peu de stress en termes de trésorerie pour les églises. Également, pour nos amis des grands bâtiments... Vous savez que Saint-Eustache, puisque James est là, je remercie James Cunningham d'être venu, nous regrettons que vous n'avez pas lu en slam quitte à être le papiste d'office. Moi, je pensais que vous alliez vous lancer dans un slam. Bon, vous ne l'avez pas fait, mais on le fera la prochaine fois, n'est-ce pas? Saint-Eustache a fait un programme de rénovation de leur bâtiment absolument fabuleux dans les 5 dernières années grâce à la mobilisation du quartier, des paroissiens de Saint-Eustache et des amoureux des grands bâtiments. Nous sommes ici dans une chapelle royale donnée aux protestants par Napoléon et dans laquelle, voyez-vous, nous avons chanté « mon Dieu, tu ne me vois pas ». Et bien là, ils ne risquent pas de nous voir parce que les vitraux sont particulièrement très sales, très abîmés. Certains ont des filets, des trous. Donc nous lançons un appel aux généreux donateurs pour la rénovation de ces vitraux. Alors c'est pas de la taille aujourd'hui de Saint-Eustache, mais nous on commence petit, mais on a quand même besoin de beaucoup d'argent pour les rénover. C'est vraiment important, symbolique en termes de lumière, mais c'est très important pour l'étanchéité également du bâtiment. Donc j'en profite pour nos amis catholiques qui soutiennent leurs églises, sachez que les dons pour les vitraux ne vont pas à notre église mais à notre fondation. C'est la fondation du patrimoine, donc si vous pouvez nous aider, vous nous donnez un don ou sur le site ou par chèque à la Fondation individualisée de l'oratoire, c'est une fondation du protestantisme reconnue d'utilité publique. Et pour ceux qui ont envie aussi de soutenir notre Église, en plus du patrimoine, c'est comme d'habitude, le don joyeux sur Internet et maintenant l'offrande. Sachez pour ceux qui ne sont pas habitués que nous avons un panier digital. Paul, tu peux te lever. Donc ceux qui n'ont pas la monnaie mais qui ont la carte bleue, ça marche aussi. Merci et excellent dimanche à tous.
Je vous invite à nous réunir dans la prière. Et ce sont nos monitrices d'éducation biblique qui vont partager avec nous la prière d'intercession. Attention, oui.
Pour que tous les enfants puissent s'épanouir en tirant le meilleur de leurs qualités intrinsèques, en les développant, en apprenant à les assumer, à les maîtriser, à les chérir. Car ce sont les particularités de chacun qui sont la richesse et la joie de notre communauté.
Éternel, c'est peu de dire que ces jours-ci, nous tous, particulièrement les plus jeunes d'entre nous, collégiens, lycéens, étudiants et les parents, ressentons lassitude et fatigue avant de pouvoir prendre un peu de repos estival. Aide-nous à faire nôtres les paroles du psalmiste. L'âme découragée est semblable à la plante flétrie par la sécheresse, mais l'arbre planté près d'un courant d'eau demeure toujours vert. Aide-nous à retrouver l'eau vive de ta parole et à nous désaltérer pour reprendre force.
Pour les enfants du monde, victimes des conflits de leurs aînés, qu'ils soient préservés et rassurés par ta présence, qu'ils gardent foi en l'avenir et espérance.
Pour les familles, petites et grandes, pour tous ceux qui accompagnent les enfants, ici et ailleurs, donne-leur la force, la confiance et la joie qu'aux côtés des enfants, ils trouvent tous ensemble le chemin.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Amis, frères et sœurs, recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'amour de Dieu, qui dépasse absolument tout ce que nous pouvons imaginer, garde vos cœurs et vos vies, vos jours et vos nuits. Allez dans l'amour de votre Seigneur. Amen. Et nous chantons un dernier refrain qui s'intitule « Jeunes et vieux » se réjouiront ensemble. Nous écoutons d'abord la musique et les enfants reprendront et vous reprendrez avec nous. Alors, vous avez vu que c'est très enjoué, alors accrochez-vous.
Alors, oui.
Ça change un petit peu de d'habitude, je suis d'accord.
Alors, on a un usage, hein, Agnès, avec ce chant-là. D'habitude, on le commence lentement.
Et on va progressivement.
Et puis la deuxième fois, quand on le reprend rapidement. Est-ce que c'est possible, Sarah? Oui, avec Sarah, c'est toujours possible.
Et voilà. Avec Alexandre aussi.
Et Alexandre aussi, voilà. Alors on y va tranquillement.
Jeunes et
aux enfants, merci au cœur.
Et merci à tous. Juste en voyant nos pasteurs danser, je m'aperçois que j'ai oublié une annonce. C'est gratuit. C'est mercredi pour les jeunes. Donc le groupe des jeunes 18 à 35 ans se réunit mercredi soir aussi sur le thème de la danse.
Et la musique.
Et de la musique. Voilà. Bon dimanche à tous.
Pour les personnes qui veulent rester pour le pique-nique, restez installés dans le temple. Et comme ça, nous allons nous retrouver tous pour partir ensemble sur le lieu du pique-nique, sur les pelouses du Louvre. Voilà, merci beaucoup.